Vous écoutez, on lit pour vous.
Le phénomène de l'hypnose médicale. Un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Un voyage imaginaire contre la douleur et l'anxiété de jeunes patients. Découvrez cette expérience d'hypnose médicale chez une famille. Dans un corridor de l'hôpital de Montréal pour enfants, un adolescent de 16 ans, cheveux en broussaille, l'air détendu et vêtu de la traditionnelle jaquette bleue des centres hospitaliers, rencontre la radiologue qui va procéder dans quelques minutes à sa biopsie. D'une voix douce et rassurante, la docteure Tatiana Cabrera lui explique le déroulement de la procédure. Alexandre Beaulieu sait très bien ce qui l'attend, car depuis sa greffe rénale il y a plus de 14 ans, à la suite d'une maladie génétique, il a subi au moins 20 biopsies pour vérifier si l'organe légué par un donneur décédé continue à bien fonctionner. Quand j'étais petit, je détestais subir une anesthésie générale, car au réveil, je me sentais étourdi et j'avais mal au cœur, explique le jeune homme, originaire de Saguenay. Mais heureusement, tout a changé. Pour la quatrième fois, il a choisi l'hypnose médicale. Maintenant, je n'ai plus besoin de prendre de remèdes calmants avant l'intervention. Je ne souffre pas et je suis beaucoup moins anxieux après, explique Alexandre. Après le départ de la radiologue, une jeune femme au regard brillant s'approche de lui. Il la reconnaît et lui sourit. Vicky Fortin est technologue en imagerie médicale. Son travail consiste à assister le médecin en salle d'opération, mais depuis 4 ans, elle est aussi hypnothérapeute médicale. En marchant avec son jeune patient vers la salle de procédure, elle le fixe dans les yeux en lui posant quelques questions qui peuvent sembler banales. « Ton prénom est bien Alexandre? Tu es ici pour la biopsie? Tes parents t'accompagnent? » L'adolescent se prête au jeu et répond oui systématiquement. C'est une technique qui prépare le cerveau à répondre par l'affirmative pendant l'hypnose. J'utilise aussi sa manière de s'exprimer, ses mots, pour créer une relation de confiance. Il doit ressentir que c'est lui le plus important, dit Vicky, qui ajoute sur un ton qui se veut magique. Aujourd'hui, Alexandre, je t'offre la possibilité de faire un beau et long voyage à l'intérieur de toi. Il répond sans hésiter par l'affirmative. Pendant qu'il s'allonge sur la table d'examen, une autre technologue en imagerie médicale prépare les instruments. La lumière est tamisée, transformant la pièce froide et austère en un endroit qui incite à la détente. Concentrée, Vicky reste complètement au service d'Alexandre, à qui elle parle continuellement. « Où veux-tu aller? » Il répond qu'il veut jouer dans la neige. Elle lui demande alors de fixer un de ses doigts. Ses paupières deviennent lourdes. Il est en transe. Le délai pour s'y rendre varie selon les patients et peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Pour Alexandre, 5 minutes suffisent pour le transporter hors de lui-même. C'est comme regarder un film sans se rendre compte que les gens parlent et marchent autour de toi, précise Vicky Fortin. La seule chose qu'elle ne peut faire, selon la loi, c'est de l'hypnose de régression, c'est-à-dire amener le patient dans le passé pour comprendre ses blessures et, éventuellement, guérir. C'est réservé aux psychologues, ajoute-t-elle. De toute façon, ce n'est pas ce qu'elle recherche. En pleine conversation, Alexandre passe par moments d'une hypnose légère à profonde. Assise près de lui et surveillant ses moindres réactions, elle le guide sur une montagne enneigée. Tu as les 2 pieds dans la neige qui tombe du ciel. Tu peux imaginer les flocons, les toucher. Vicky l'entraîne ensuite dans une longue glissade en traîneau pendant que la radiologue s'approche pour procéder à une anesthésie locale sur son ventre. Il ressent légèrement le froid de l'analgésie, mais s'imagine que c'est la neige qui touche sa peau. On doit procéder à une anesthésie partielle, car dans ce cas, l'hypnose ne peut pas faire disparaître complètement la douleur, explique la radiologue Tatiana Cabrera, qui insère son bistouri sous la paroi abdominale pour prélever de petits fragments de tissu qui seront analysés en laboratoire. L'hypnose nous aide dans notre travail. Les enfants sont beaucoup plus détendus, constate-t-elle. La fin d'un rêve. 30 minutes après l'arrivée d'Alexandre dans la salle, tout est terminé. Vicky Fortin lui annonce que le voyage s'achève. Elle fait un décompte. À 7, tu vas sentir le matelas, la couverture. 5, 4, 3, 2, 1, tu ouvres les yeux. Alexandre semble s'extirper d'un léger sommeil. Je n'ai rien ressenti, à part une petite pression sur mon ventre au moment de la biopsie, raconte l'adolescent. L'hypnose médicale, c'est beaucoup mieux que l'anesthésie générale, répète-t-il, satisfait de ne plus avoir d'étourdissement et de nausées. Quand une technologue en imagerie médicale nous a parlé pour la première fois d'hypnose, j'ai trouvé ça étrange, se rappelle Caroline Vincelette, la mère d'Alexandre. On a laissé le choix à notre fils et ça s'est avéré très positif car il est beaucoup plus calme. Avant la première séance avec Vicky Fortin, l'adolescent était nerveux. On m'a donné un calmant, mais quand on m'a fait l'injection, j'ai ressenti la douleur et je me suis mis à pleurer, confie-t-il. Vicky lui a proposé d'arrêter et de réessayer une autre fois, mais il s'est détendu et tout s'est bien déroulé. En transe, il est alors devenu l'acteur d'un jeu vidéo. Le patient a toujours le choix, explique Vicky, qui a subi seulement un ou deux refus sur les quelques 200 séances réalisées depuis le début en 2019 avec sa collègue Marianne Fortin, également technologue en imagerie médicale et hypnothérapeute. Une première au Québec. Cette année-là, l'hôpital de Montréal pour enfants devient le premier centre hospitalier pédiatrique au Québec à utiliser l'hypnose médicale pour réduire la douleur et l'anxiété chez des patients qui subissent certaines procédures d'imagerie médicale. Tout s'amorce 2 ans plus tôt, en 2017, lorsque l'ex-directeur général de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, Alain Crump, assiste à un congrès à Bordeaux, en France. Une technologue en imagerie médicale, qui est aussi hypnothérapeute dans un hôpital de Lyon, Claire Benoît Ruby, présente une conférence sur les avantages de l'hypnose lors de certaines interventions avec des enfants. J'ai soumis à mon ordre professionnel l'idée d'importer cette façon de faire, raconte Alain Crump, qui suggère à Joanne Lécuyer, la chef technologue de l'hôpital de Montréal pour enfants, qu'il connaît bien, de se rendre en France avec une collègue pour en constater à leur tour les bienfaits. Pendant une semaine, en avril 2018, elle visite le centre hospitalier universitaire de Rouen et l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. C'est là qu'elles assistent à quelques séances d'hypnose médicale, dont le retrait sans douleur d'un pansement sur une adolescente qui a subi une chirurgie pour une scoliose. Elles observent aussi un enfant de 8 ans à qui on extrait une tumeur bénigne de la peau en raison d'une prolifération anormale des vaisseaux sanguins. Nous avons été emballés de constater comment c'était efficace, alors qu'au Québec, on devait faire appel à des anesthésistes dans des situations semblables, se réjouit Joanne Lécuyer. Avec l'accord de la direction de l'hôpital Montréal pour enfants et de radiologues, l'hypnothérapeute française Claire Benoît-Ruby est invité au Québec en janvier 2019 et donne une formation de 2 semaines à 4 technologues. Au Québec, vous êtes à la fine pointe de la technologie et de la recherche. Mais je me suis rendu compte que l'hypnose médicale est quelque chose de nouveau pour vous, avoue Claire-Benoît Ruby, qui la pratique dans son pays depuis 2008. Vous écoutez « Le phénomène de l'hypnose médicale », un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024 dans « Sélection du Reader's Digest ». L'origine mondiale de l'hypnose médicale et son arrivée au Québec. Dès l'an 2000, la Haute Autorité de Santé en France recommandait l'hypnose comme traitement non pharmacologique de la douleur. La première formation universitaire démarre un an plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le CHU de Rennes commence à l'utiliser en 2007 dans les unités d'hémato-oncologie et les urgences pédiatriques où l'on constate que 82 % des enfants ont ainsi moins de troubles anxieux. À l'hôpital de Montréal pour enfants, la formation débute par les injections d'intraveineuses, suivies par la pose de cathéters veineux centraux, les biopsies rénales et thyroïdiennes, les ponctions lombaires et les gastrotomies, énumère Joanne Lécuyer. Elle dirigera, durant les 9 premiers mois de 2019, un projet pilote démontrant une réduction considérable de l'anxiété et de la douleur chez 101 enfants. D'autres études prouvent que les jeunes, particulièrement ceux âgés de 7 à 14 ans, sont de vrais surdoués de l'hypnose grâce à leur imaginaire. Quelquefois, je fais un lien entre ce que l'enfant a choisi et la salle de procédure qui devient un vaisseau spatial très sophistiqué avec des boutons pour le diriger et une table d'examen qui se transforme en tapis volant, raconte Vicky Fortin. Le cerveau imagine ce qui est agréable et ignore ce qui se passe réellement autour, car le patient est dans une bulle. Les neurosciences ont prouvé que, durant l'hypnose, différentes zones cérébrales ont une activité modifiée. Le phénomène captive le domaine médical depuis longtemps. Dès le 18e siècle, le médecin allemand Franz Anton Mesmer tentait de percer le mystère du phénomène hypnotique. En Inde, au début du 19e siècle, un chirurgien anglais aurait réalisé 345 interventions, dont des amputations et des excisions de tumeurs, en utilisant cette technique. En 1841, en Angleterre, l'ophtalmologue James Braid développe une théorie selon laquelle la concentration sur une pensée peut entraîner un état de sommeil conditionné. L'apparition des anesthésies à l'éther et au chloroforme, en 1846, fait reculer la pratique de l'hypnose. Mais, en 1891, un groupe de médecins de la British Medical Association conclut que son utilisation est efficace dans les traitements de la douleur et des troubles du sommeil. Au 20e siècle, une approche moderne de l'hypnose est développée par le psychiatre américain Milton Erickson, qui portera une attention particulière sur la capacité naturelle des enfants à entrer en transe. La docteure Karen Holness, pédiatre aux États-Unis, commencera à enseigner l'hypnose chez les enfants en 1968 et publiera des ouvrages sur le sujet. Elle est aujourd'hui considérée comme la mère de l'hypnose pédiatrique. Cette pratique non conventionnelle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Au Québec, le ministère de la Santé ne détient pas de détails sur l'étendue de son recours, mais la technique est permise pour la gestion de la douleur. Une pratique fréquente. À l'unité d'imagerie médicale de l'hôpital de Montréal pour enfants, jusqu'à 6 patients profitent chaque semaine d'une séance d'hypnose offerte à tour de rôle par 2 technologues. On aimerait embaucher et former davantage de personnel pour que cela profite à l'avenir en imagerie par résonance magnétique où il y a une liste d'attente, car les enfants doivent avoir une anesthésie générale pour rester immobiles, précise Carole Proux, chef technologue à l'hôpital de Montréal pour enfants. Claire-Benoît Ruby réussit à le faire en France, même si les jeunes, dissimulés dans l'appareil d'IRM, ne peuvent pas l'avoir durant l'examen. J'intègre les bruits violents de la machine dans l'hypnose. Ils peuvent devenir des chevaux au galop, dit celle qui rêve d'une collaboration France-Québec qui permettrait de développer davantage l'hypnose médicale. Personne n'a encore comptabilisé les économies que cela représente. L'hypnose médicale évite des anesthésies générales, la prise de médicaments et quelquefois des intubations. C'est avantageux, car il y a une pénurie d'anesthésistes et d'inhalothérapeutes, rappelle la docteure Cabrera, qui espère un jour voir des équipes d'hypnose aux urgences où elles pourraient aider à surmonter les crises d'anxiété lors de la pose d'intraveineuse. Cela devrait aussi s'étendre aux patients adultes. L'hypnose médicale, c'est une manière d'être, de sourire, de parler avec calme et bienveillance aux malades, ajoute Joanne Lécuyer, convaincue que le réseau de la santé en profiterait énormément. L'idée fait lentement son chemin et a commencé à s'étendre à l'unité de rhumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. L'infirmière Charlene Hopper a aussi été formée par Claire-Benoît Ruby en 2020 lors d'une seconde visite interrompue par la pandémie de COVID-19. Environ le tiers des patients, une trentaine au total, ont depuis choisi l'hypnose lors d'infiltrations dans les articulations pour traiter l'arthrite juvénile. Pendant que le médecin introduit l'aiguille dans un genou ou un coude, le patient ne ressent rien, trop occupé pendant une dizaine de minutes à croire qu'il joue au hockey ou participe à un jeu vidéo, explique Charlene Hopper. Sans la sédation, souvent nécessaire auparavant, les jeunes n'ont plus besoin de rester ensuite sous surveillance le temps de se rétablir. Une de ses patientes, Maya Bajaj, 17 ans, ne regrette pas d'avoir choisi l'hypnose à deux reprises. « Chaque fois, j'ai l'impression de méditer. Je me retrouve à notre chalet des Laurentides, survolant les montagnes. Je me sens bien. » Maya entrevoit sa prochaine injection annuelle avec confiance. « Je n'ai plus peur. Je me demande seulement si je retournerai encore une fois au chalet ou si j'irai jouer dans la neige, » dit-elle avec enthousiasme. Qui aurait cru qu'un jour, certaines interventions douloureuses deviendraient presque de véritables jeux pour les enfants et les adolescents grâce à l'hypnose médicale? C'était le phénomène de l'hypnose médicale. Un texte de Harold Gagné, paru le 25 mars 2024, dans Sélection du Reader's Digest.
Écouter et se faire entendre. Prévenir l'itinérance jeunesse. Un texte de la rédaction, paru dans la revue du Chronis. Quelle place réserve-t-on aux jeunes dans notre société? Les jeunes disposent-ils, et elles, des moyens nécessaires pour se développer et s'épanouir librement selon leurs propres paramètres? Partageons-nous le pouvoir nécessaire avec les jeunes pour qu'ils et elles voient émerger une société à leur image? Si ces questions peuvent paraître loin des discussions habituelles sur le phénomène de l'itinérance jeunesse, elles sont pourtant au centre des préoccupations des jeunes ayant vécu une situation d'itinérance et des intervenants-intervenantes qui les accompagnent. Cette exposition d'immersion audiovisuelle vous invite à plonger dans le regard afin d'interroger nos représentations collectives de l'itinérance chez les jeunes et de réfléchir à la prévention de ce phénomène. Développement de l'exposition, une collaboration avec le CROMIS. Le projet Prévention itinérance jeunesse, PIG, vise l'élaboration d'un cadre de prévention de l'itinérance jeunesse qui soit à l'image des jeunes et adapté au contexte sociopolitique québécois. Afin de faire connaître quelques-uns de ces résultats de recherche et d'amorcer une réflexion collective vers un changement de paradigme qui vise la prévention, l'équipe PIG s'est alliée avec le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et pratiques alternatives de la citoyenneté, CREMIS. Bon nombre des chercheurs, chercheuses, universitaires ayant participé à ce projet sont affiliés à ce centre de recherche. Au fil de plusieurs rencontres avec l'équipe PIG, le CREMIS a identifié avec les jeunes co-chercheurs et chercheuses différents moyens permettant de rejoindre les publics concernés et de leur transmettre les messages clés qu'ils et elles voulaient passer en termes de prévention. Ainsi, ces rencontres ont permis à plusieurs idées d'évoluer et la présente exposition est le fruit de cette collaboration au long cours. D'entrée de jeu, les jeunes co-chercheurs et chercheuses ont souligné à grands traits l'importance de mettre en lumière la voix des jeunes concernés directement par le phénomène dont il est question. Il a donc été décidé qu'un montage audio serait développé pour que le public de l'exposition soit placé dans une posture d'écoute, posture trop souvent niée aux jeunes. Nouvellement constituée, l'équipe de développement de l'exposition, équipe PIG et CREMIS, a entrepris de réenregistrer quelques extraits d'entretien auprès des jeunes ayant participé à la recherche. Ces extraits ont été choisis en fonction des thématiques et des propos les plus récurrents dans les entretiens de ces derniers et dernières. Éprouvant certaines réserves lors du réenregistrement de ces extraits, les jeunes co-chercheurs et chercheuses ont ensuite souhaité apporter des nuances au passage d'entretien retenus pour que le public de l'exposition gagne en perspective. Leurs commentaires témoignent de leur connaissance fine du phénomène de l'itinérance jeunesse, bien sûr en raison de leur vécu, mais également en raison de leur réflexion sur des enjeux de société plus larges que recoupe la recherche à laquelle ils et elles ont activement contribué. L'équipe PIJ a ensuite sélectionné des extraits d'entrevues fédérateurs des points de vue exprimés par les intervenants et intervenantes rencontrés dans le cadre de la recherche. Ces extraits sont imprimés et plantés dans des jardinières, invitant de fait le public de l'exposition à faire germer les idées clés émises par ces intervenants et intervenantes. Afin de rendre plus visuellement préhensible la recherche PIJ, l'équipe de développement de l'exposition a aussi travaillé à la création de fiches thématiques reprenant des leviers d'inclusion et des facteurs d'exclusion pouvant mener à ou prévenir l'itinérance en fonction des espaces sociaux. Ces leviers d'inclusion ou facteurs d'exclusion ont été recensés dans la littérature et récoltés dans les entrevues auprès des jeunes et des intervenants et intervenantes. Ces outils se veulent des synthèses visuelles dont peuvent se saisir un large public interpellé par le phénomène de l'itinérance chez les jeunes. Les intervenants et intervenantes et les gestionnaires de tous les milieux, institutionnels et communautaires, les élus de tout palier de gouvernement, par exemple, peuvent s'appuyer sur ces fiches pour amorcer un changement à leur échelle. Lorsque le rapport de recherche de l'équipe PIJ sera diffusé, ils et elles pourront aller approfondir les énoncés de ces fiches. Finalement, sensible à la réception de cette exposition, son équipe de développement vous incite à rédiger ce que vous avez retenu ou pensé de votre visite dans le livre d'or disposé à l'entrée de l'exposition. Un mot sur le projet de recherche. Cette exposition est le fruit d'un projet de recherche-action participative sur la prévention de l'itinérance jeunesse, PIJ, au Québec. Notre équipe, formée de jeunes co-chercheurs, chercheuses, détenant un savoir expérientiel, de chercheurs, chercheuses académiques et de collaborateurs, collaboratrices, organismes communautaires et institutions, s'est penchée sur la question de la prévention de l'itinérance jeunesse en travaillant de près avec la coalition Jeunes Plus. Nous avons interrogé des jeunes, des intervenants et intervenantes et des chercheurs et chercheuses sur les trajectoires et les points tournants menant à l'itinérance chez les jeunes de la province, ainsi que sur les pratiques d'intervention les plus prometteuses en matière de prévention et de réduction du phénomène de l'itinérance jeunesse. Tout cela dans le but d'identifier les lacunes des politiques et des pratiques et de proposer un cadre de prévention propre au Québec. Événement en présentiel dans le cadre des 20 ans du CREMIS. Quelle place réserve-t-on aux jeunes dans notre société? Quelles expériences la jeunesse tire-t-elle des systèmes et institutions en charge de la protéger? La jeunesse dispose-t-elle des moyens nécessaires pour se développer et s'épanouir librement et selon ses propres paramètres? Donne-t-on le pouvoir nécessaire aux jeunes pour qu'ils et elles voient émerger une société à leur image? Si ces questions peuvent paraître loin des discussions habituelles sur le phénomène de l'itinérance jeunesse, elles sont pourtant au centre des préoccupations des jeunes ayant vécu une situation d'itinérance et des intervenants-intervenantes qui les accompagnent. S'appuyant sur des résultats de recherche, cette exposition d'immersion audiovisuelle vous invite à plonger dans leur regard afin d'interroger nos représentations collectives de l'itinérance chez les jeunes et de réfléchir à la prévention de ce phénomène. Dans un contexte où les voix de ces personnes sont souvent tues ou discréditées, l'immersion que vous vous apprêtez à vivre vous place dans une posture d'écoute afin que les jeunes et les intervenants et intervenantes se fassent entendre. Exposition d'immersion audiovisuelle. Réservez votre place gratuite à l'exposition d'immersion audiovisuelle qui se tiendra le jeudi 6 juin 2024 de 18h à 21h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Site web pour l'inscription eventbrite.ca/écouter-écouter-se-faire-entendre-prévenir-l'itinérance-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunesse-jeunes l'itinérance jeunesse, un texte de la rédaction paru dans la revue du CREMIS.